Philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 18 novembre 1993.
Nous allons avoir la bénédiction des cloches tout à l'heure. C'est très intéressant de faire la théologie des cloches et de voir que les cloches, même selon l'État, ne sont pas considérés comme quelque chose d'extérieur à l'immeuble. C'est un bien immeuble. C'est assez curieux. Comme l'immeuble appartient à l'État, nous sommes reçus dans un bien d'église que l'État a pris et que l'État considère que ça lui appartient. Il y a eu un vol au point de départ, et puis ainsi de suite, vous voyez, c'est très complexe. Hein. Et ces cloches appartiennent à l'immeuble. Alors on fait un cadeau à l'État, c'est pas nous, hein, parce que ces cloches sont offertes par une bienfaitrice ou un bienfaiteur, les deux. Dans cette intention directe, de donner des cloches, c'est-à-dire des cloches quand ils refondent. Je dis ça parce que ça coûte très cher, des cloches. Et c'est la personne qui les a données a dit, si vous ne voulez pas de cloches, alors très bien, on les donnera à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a ça dans l'idée. On ne sait pas si c'est du Saint-Esprit. Pas du Saint-Esprit, je n'en sais rien, c'est pas moi à juger. Mais tout est-il que l'intention est très nette. On les a donnés d'abord à Raymond, puis après ici. Je dis ça pour que vous compreniez. On n'a pas l'argent pour acheter des cloches comme ça. Hein. C'est vraiment donné. Et il y a un sens aux cloches. Ça fait partie d'un couvent, d'une communauté consacrée à Dieu et une communauté liturgique, puisque les cloches font partie de la liturgie, font partie de qu'on ponctue le temps pour Dieu. Le temps ne nous appartient pas si on est chrétien. On croit que ça nous appartient, on gère son temps, oui, très bien. Mais en réalité, vous ne savez pas si ce soir vous ne partirez pas pour l'éternité, hein. Alors, vous le gérez de façon assez particulière. Si je pars ce soir pour l'éternité, je ne gérerai pas ma journée d'aujourd'hui de la même façon que si j'ai encore demain. Vous comprenez bien. Alors, je crois que c'est important de comprendre ce que ça signifie, tu vois, la liturgie. Et le cardinal vous l'expliquera. Et on doit, à cette occasion, faire un petit examen de conscience. Est-ce que nous perdons pas beaucoup de temps? On perd un temps énorme à critiquer les murmures. Alors je rappelle à cette occasion, c'est à cause des cloches que je rappelle ça, puisque les cloches nous montrent que notre temps appartient à Dieu. Et donc nous devons essayer par tous les moyens de ne pas perdre de temps. C'est pour l'éternité, hein. Nous vivons pour l'éternité, si nous sommes des chrétiens. Et a fortiori ici, puisque je vous ai dit, on est dans un milieu monastique. Et que ceux qui viennent acceptent d'être dans un milieu monastique. Et s'ils n'acceptent pas, ils n'ont qu'à partir. Hein. C'est pas nous qui les cherchons. Je le dis parce que c'est très important de se le rappeler de temps en temps. Parce que très vite, on reprend des mœurs d'étudiants. Or ici, on l'a dit dès le point de départ, on accepte, on ouvre les cours à ceux qui veulent participer à des cours qui se donnent dans un but très déterminé, la recherche de la vérité. Et que tout le monde doit coopérer à cette recherche de la vérité. Alors je dis spécialement pour les étudiants qui ne sont pas le démon qui encaisse. Venez, on ne demande qu'une seule chose, c'est la recherche de la vérité. Donc posez vos questions. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un gourou, je comprends très bien. Je vous ai dit que ici, on ne faisait pas d'aspect rhétorique pour non, on va directement, pour ne pas perdre de temps. Très directement. Mais ça exige de vous d'entrer dans la même perspective. Si vous n'entrez pas dans la même perspective, vous êtes à côté de la plaque. Et donc vous perdez votre temps. C'est très très important ça. Oui. La vie monastique fait qu'on est tout entier tourné vers l'éternité. Et si on est tout entier tourné vers l'éternité, on n'a pas le temps à perdre. On n'est pas des étudiants. On est consacré à la vérité. Et on cherche cette consécration. Tout chrétien devrait être comme ça, mais on vit dans un monde tellement laïcisé qu'on l'oublie. Qu'on l'oublie personnellement. Qu'on croit qu'on a du temps à discuter. Est-ce que vous cherchez la vérité? Je vous parle en toute confiance, c'est-à-dire sans aucune distinction entre ceux qui sont dans la vie religieuse et ceux qui ne le sont pas. Je ne vais pas mettre des gants et dire « Ah, à cause de ça, il y en a certains qui ne sont pas dans la vie religieuse. Attention, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça. » Non, on cherche la vérité. Alors je vous demande d'avoir la même loyauté. Autrement, on vous met à la porte. C'est très simple. On dit, vous êtes trompé de porte, et puis c'est tout. Parce que c'est très très important. Il suffit de deux qui murmurent pour tout fausser. Alors c'est une cloche fêlée. Je ne veux pas de cloche fêlée, hein. On les a refondus exprès pour ça. Parce que une cloche fêlée, c'est perdre du temps. Là, il ne faut pas qu'il y ait des cloches fêlées. Et ça, je serai farouche là-dessus. Parce que pour moi, c'est cela qui est essentiel à la recherche de la vérité. C'est qu'on ait le courage de dire « Je ne comprends pas ça. » Pourquoi faites-vous ça? Je pourrais toujours vous l'expliquer, parce que je vous affirme que j'enseigne déjà depuis un certain nombre d'années, et je sais loyalement ce qui est utile à l'Église aujourd'hui. Et nous le faisons en communion très directe avec le Saint-Père. Je ne dis pas du tout que je répète ce que dit le Saint-Père, c'est pas ça du tout, ce serait faux. Mais on le fait en communion très directe avec le Saint-Père. Une formation monastique. C'est ça qu'on fait. Et apostolique. Alors, si ça ne vous convient pas, vous le dites, puis c'est tout. Je comprends très bien. On n'est pas ici une université. Je sais ce que c'est d'enseigner dans l'université. J'ai enseigné assez longtemps. Et mon enseignement à Fribourg était tout à fait différent d'ici. Dans une université, on perd énormément de temps. Quelquefois tellement qu'on ne recherche plus la vérité. Et on expose les opinions. Je me souviens de quelqu'un qui avait fait 8 ans de Sorbonne. On lui a demandé, il était entré ensuite chez les Dominicains. C'était le père Molinier, pour ne pas le nommer. Hein. Alors, on lui a demandé quand il est entré, il a fait 10 ans de Sorbonne, je crois, préparant l'agrégation. Et alors, on lui a demandé quel est le professeur qui vous a influencé le plus. Il a dit aucun. On a dit, mais comment? C'est des gens intelligents. Mais aucun. Aucun ne cherche la vérité. On a exposé le système. On fait quelque chose de tout à fait différent ici. On essaie. Chacun, pour nous, dans un travail personnel de rechercher la vérité, au plan des trois sagesses. Et on distingue toujours les trois sagesses. Si vous n'avez pas compris les niveaux des trois sagesses, On n'est pas à la même vitesse quand on est en philosophie, quand on est en théologie scientifique et quand on est en théologie mystique. Or, ici, on fait de la philosophie et de la théologie mystique. La théologie scientifique se fait à Rimont. Et pas ici. Parce que la théologie mystique nous introduit plus immédiatement dans cette troisième sagesse. Donc il faut comprendre ça. Et quand on lit l'écriture, on la lit dans une perspective de théologie mystique. À la manière du Saint-Père, à la manière des pères de l'Église, à la manière dont certains exégètes que j'aime bien, comme le père Feuillet, trouvent que c'est tout à fait légitime. On ne s'arrête jamais à l'exégèse. S'arrêter à l'exégèse, c'est pas une sagesse. Donc il faut être, si on n'est pas d'accord, qu'on me dise les objections. J'aime pas qu'on les dise en dessous. Parce que les dire en dessous, c'est une perte de temps. J'ai horreur de la perte de temps. Une sainte horreur. Sans doute parce que je suis déjà âgé. Alors on est près de l'éternité. On se dit, mais bon, faut pas perdre de temps. Mais quand on est jeune, on s'y en a toute sa vie. Mais attention, attention, hein. On n'aura peut-être pas toute sa vie. Ce sera peut-être plus court qu'on pense. Donc on n'a pas à perdre de temps. On n'a pas à perdre de temps. Je dis ça, voyez, parce que on sait, les murs répètent, vous savez, c'est extraordinaire. Mais on sait très bien ce qu'ils se disent, c'était très très extraordinaire. On croit qu'on dit, mais on dit non, tel ou tel qui commence à faire du mauvais esprit. Bien, s'il y en a qui parmi vous font du mauvais esprit, je leur demande de prendre la porte. Parce que c'est une perte de temps. Vous n'êtes pas obligé d'assister au cours. Alors quand je saurai que quelqu'un fait du mauvais esprit, je dirai n'assistez plus au cours, je vous l'interdis. C'est tout. Parce que un qui fait du mauvais esprit, c'est comme une poire pourrie au milieu d'autres. C'est pour ça que je dis fêlée, si vous aimez mieux. Une cloche fêlée au milieu d'autres. On doit coopérer tous dans cette recherche de la sagesse et dans cette recherche de la vérité. C'est tellement important, ça. Oui, c'est difficile, je sais très bien que c'est difficile, parce que ce n'est pas dans le sens habituel où l'on fait des cours en regardant les opinions de droite et de gauche. Pour moi, les opinions, ça fait partie de la dialectique au sens aristotélicien. C'est très intéressant quand on a le temps de le faire. Quand on n'a pas le temps de le faire, on va directement au but. Recherche de la vérité. Mais c'est important. À Fribourg, je passais beaucoup plus de temps dans cet aspect dialectique. Parce que c'est ce qui se fait dans les universités. On reste souvent dans l'aspect dialectique. Et on reste avec sa fin. Ici, le style est différent. C'est un style de recherche de vérité. Et ceux qui sont affamés de vérité comprennent ça. Ceux qui ne le sont pas ne comprennent pas. Alors je dirais, allez en Sorbonne. Là, vous aurez votre nourriture. Et vous êtes libres, puisque les laïcs sont libres d'aller en Sorbonne. Pour les religieux, s'ils sont entrés, c'est différent. Ils sont déjà optés en disant qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps sur la vie et qu'ils cherchent la vérité. Mais il faut tout le temps renouveler son désir de recherche de la vérité. C'est tellement important. Et de savoir que l'enseignement, ce que dit saint Thomas dans le De Magistro, il faut relire de temps en temps le De Magistro de saint Thomas, que l'enseignement implique une coopération entre les étudiants et celui qui enseigne. Autrement, on retombe dans la dialectique du maître et de l'esclave. Les étudiants étant l'analogue à l'esclave. Et le professeur étant l'analogue au maître. Alors on tombe dans cette dialectique, on considère que le professeur c'est celui qui enseigne avec la vieille, mais nous il cherche comme vous. Croyez bien, je cherche tout le temps. Et on redécouvre toujours des choses nouvelles. On cherche tout le temps la vérité, tout le monde. Et la recherche de la vérité implique cette espèce de loyauté de recherche de la vérité. On est plusieurs, on recherche la vérité, on pose des questions. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut toujours poser des questions. Poser des questions supprime les murmures. Ça c'est sûr. Poser des questions. On pose des questions pour s'éclairer, pour avancer. Si on ne pose pas de questions, c'est Merleau-Ponty qui le dit, l'idéaliste ne pose plus de questions. Alors j'ajoute, il murmure. Parce que vous avez votre idée première. Vous dites, ça ne correspond pas à mon idée. Mais est-ce que c'est vous qui imposez votre manière d'enseigner? Ou est-ce que vous entrez dans une école qui existe déjà? Alors vous pouvez très bien dire, c'est faux comme enseignement. Ça, c'est votre avis. C'est votre avis. Allez autre part pour trouver un enseignement analogue à ce que vous cherchez. Ça existe. Ça existe. Alors, ici, on enseigne de telle manière. Oui. Et c'est Rob qui nous le demande. Parce qu'au début, on ne savait pas très bien. Et je demandais à Rob comment on devait faire. Et Rob nous a dit, ayez ce courage de le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Pour former une intelligence dans la recherche de la vérité. C'est pas tellement telle conclusion, vous savez. De recherche telle conclusion, ça c'est matériel. La conclusion est matérielle dans la recherche. Ce qui est intéressant, c'est l'intention de rechercher la vérité. Et d'être une loyauté absolue là-dessus. En sachant ce qu'on cherche. Alors ici, il y a une question, je vais répondre très rapidement, c'est très bien de la poser. En éducation, est-ce légitime de pousser les enfants à manger de tout? Alors, vous voyez l'analogie. Quand on enseigne, on vous sert à manger, intellectuellement. Alors, le tout, ça peut être la choucroute. Le tout, ça peut être les opinions de tout le monde. Ici, on essaie de chercher la vérité. Donc, je ne vous demande pas de manger de tout. La vérité. Est-il légitime de pousser les enfants à manger de tout? Quelle part donner à une répulsion naturelle et à l'éducation des sens? On doit éduquer. C'est-à-dire coopérer. Au Moyen-Âge, l'éducation, c'est un art adjuvans naturam. L'éducation est un art qui aide la nature. Donc on n'éduque pas tout le monde de la même façon. Un bon éducateur sait qu'on n'éduque pas tout le monde de la même façon. Parce qu'il y a des répulsions naturelles. Il y a des répulsions naturelles, vous voyez, tout à fait naturelles. Vis-à-vis du lait, vis-à-vis de la crème, vis-à-vis d'un tas de trucs comme ça. Hein. Est-ce que vous allez dire, hein, tu vas prendre ça? Aujourd'hui, on a discerné qu'il y avait des gens qui étaient des gauchers, des droitiers. Au début, c'est pas si vieux, au début du siècle, hein, tout le monde devait écrire de la main droite. Et si vous écriviez de la main gauche, je disais non. Surtout, on a respecté ça. Parce qu'on a vu que ça faisait des quantités de contrariétés. Et c'est vrai. Pourquoi la droite et la gauche? C'est conventionnel. C'est conventionnel. Ça va jusqu'au Parlement, ça. Et c'est conventionnel, la droite et la gauche. Il y avait un étudiant à Fribourg qui avait commencé le test là-dessus. Il n'a pas pu le continuer parce que c'était tellement vaste. Qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche? Vous voyez le point de départ chez Aristote. Parce qu'il n'y a pas de droite et de gauche pour l'animal. C'est curieux. Dites à une vache, va à droite! Vous pouvez faire un cirque sur la droite et la gauche. C'est très amusant du reste. parce que ça c'est très intéressant de voir ce conventionnel droite et gauche. Et c'est l'homme, et en tout cas on voit très bien que pour l'homme, la droite et la gauche, la devise, ce qui vient de nous, toutes les hypothèses possibles que vous pouvez faire, qu'il y a quelque chose de juste, et puis il y a quelque chose en même temps qui est très conventionnel. Alors, si vous prenez l'éducation au très grand sens, vous devez éviter du reste, il est bien loin. On voit les deux excès. Dans un cas, on oublierait le côté qualitatif. Dans l'autre cas, on aurait quelqu'un d'associable, n'aimant que peu de choses. Prenez, on éduque chaque personne et on éduque en communauté. Le noviciat est commun et il est pour chacun en particulier. Or, la foi implique l'obéissance. on accepte de croire à quelque chose qui nous est révélé, dont nous n'avons pas l'évidence. Ça, c'est rude. Bien, au point de vue philosophique, on sait que la foi, croire en ce qu'on nous dit, ce qu'on demande à ses étudiants, croire en ce qu'on vous dit, c'est pour qu'un jour, on puisse soi-même avoir l'évidence au plan philosophique. Au plan chrétien, on croit pendant tout pèlerinage de la terre. Et on est en attente de la vision béatifique, on ne sera plus sur la terre. C'est extraordinaire ça. Et c'est très important de comprendre la différence. D'un côté, c'est la foi surnaturelle, en vue de l'éternité. De l'autre côté, c'est une foi humaine pour avancer. Il y a un minimum de confiance envers le professeur. Si on critique tout de suite le professeur, on stérilise tout. Alors, croyez moins que le professeur a quand même dans ses domaines qu'il enseigne plus d'expérience que vous. Alors, on peut discuter, on peut très bien ne pas d'accord. Mais dès qu'on n'est pas d'accord, et si on est intelligent, hein, parce qu'on peut être très bien, vous voyez, on peut très bien ne pas être d'accord affectivement, parce qu'on n'aime pas le professeur. Alors, on n'est pas d'accord affectivement. Mais ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. On doit analyser pourquoi on n'est pas d'accord. Et c'est là où l'interrogation est intéressante. Pourquoi on n'est pas d'accord? Et ça, ça présuppose une analyse. À quel moment ne sommes-nous pas d'accord? Si on n'est pas d'accord radicalement, il vaut mieux pas continuer. Puisque c'est radical. Il y a un minimum de confiance. Dans tout enseignement, il y a un minimum de confiance. Il faut d'abord croire. Si vous voulez avancer, il faut d'abord croire. De foi humaine. Avoir confiance. De foi humaine. Alors, au bout d'un an, vous pouvez commencer à dire, tiens, sur ces points-là, je ne suis pas d'accord. Mais pas au bout de deux mois, c'est de la bêtise. Parce que vous voyez, vous avez deux mois, ou un mois et demi. Remarquez que c'est... Au bout d'un mois et demi, on peut très bien dire, je me suis trompé, c'est pas à cette porte-là que je devais me frapper. Ça, c'est très bien. Et c'est tout à fait normal, ça. On se trompe. On a cru que quelqu'un nous avait dit que c'était très intéressant, et puis on vient au bout que c'est pas intéressant du tout. Très bien. On s'est trompé. On va juger. On n'est pas tenu. Et c'est vrai pour tout ça, dans la vie. Mais si on veut entrer en philosophie, comme en théologie, c'est une sagesse. Donc c'est long. Je me souviens, je l'ai déjà dit, quand je suis entré dans l'ordre de Saint-Dominique, et que les premiers cours de philosophie que j'ai eus, je n'y comprenais rien. Alors, au bout du premier cours, j'ai dit à mon frère, puisque c'était mon frère Père Thomas qui enseignait, j'ai dit, j'ai rien compris. Alors il m'a simplement dit, tu crois que je fais le cours pour toi? J'ai compris. On fait le cours en premier lieu pour les troisième années, puisque c'est un tour commun, 1, 2, 3 ans. Autrement, les troisième années n'auraient qu'à se tourner le pouce. Ça c'est déjà vu, non. On ne peut pas faire autrement. Si on était plus, on pourrait faire un premier cours, première année, deuxième cours. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme toute chose. Mais en philosophie, on peut le faire. Pas en mathématiques, mais en philosophie, on peut le faire. Parce que la philosophie étant une sagesse, on entre par des portes différentes. Non, vous avez le privilège d'anesthésie, c'est le début de la métaphysique, c'est très bien, c'est le début. Mais c'est le début pour la troisième année. Allez. Et donc, ceux qui commencent à faire de la philosophie réalisent depuis 2 mois ou 3 mois qu'ils n'y comprennent rien. Je comprends très bien. Mais qui c'est l'humilité de dire qu'ils ne comprennent rien. C'est ça, c'est comme ça qu'on progresse. Faut beaucoup d'humilité pour progresser. Faut une très grande avidité de recherche. C'est normal, ça fait partie de la cesse de l'enseignement. Il y a un aspect de la cesse. Mais il faut coopérer. Si on ne coopère pas, on n'avance pas. Il y a un bien commun qui se fait entre le professeur et ceux qui écoutent. Il y a un bien commun. Et ce bien commun, c'est la recherche de la vérité. Et s'il y a ce bien commun, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de très grand qui se fait. Parce que je crois que c'est l'activité humaine la plus noble, la plus grande, que d'enseigner la philosophie première. Ça, je le crois. Et d'enseigner la théologie naturelle. Rien n'est aussi grand que ça. Alors, c'est pas étonnant que c'est pas commode de s'accrocher. C'est difficile. Alors, vous voyez, pour l'éducation, la réponse est très simple, c'est qu'il faut savoir que l'éducation, c'est un art adjuvans natura. Un art qui est là pour aider une nature qui existe, une personne qui existe, un individu qui existe. Et alors si on est un très bon pédagogue, un très bon éducateur, on voit tout de suite les points sur lesquels on peut insister. Et puis, on laisse couler le reste. Il ne faut jamais éduquer quelqu'un sur tout. Parce que ça le met dans un état d'impossibilité. On éduque dans une ligne, c'est pour ça que c'est la finalité qui montre ça. C'est tout le procédé de la connaissance analogique à ça. Or, on est naturellement terriblement univoque. Et tout nous conduit vers l'univocité, c'est-à-dire un aspect quantitatif, alors que l'analogie nous fait comprendre la finalité. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la vérité dans ces différents domaines. Alors, nous cherchons la vérité sur la naissance de la prudence. Comment la vertu de prudence est nécessaire et comment on doit l'acquérir. Alors, comment on doit l'acquérir ? C'est l'éducation. Je ne regarde pas tellement le comment on doit l'acquérir, vous comprenez ? C'est pas mon but. C'est pas la finalité du cours. C'était la finalité du cours, on ne pourrait pas éduquer une quantité aussi grande et aussi différente. C'est évident. Il y a le noviciat qui doit vous apprendre la prudence chrétienne, qui n'est pas la prudence humaine. On doit vous apprendre la prudence religieuse, qui n'est pas la prudence uniquement humaine, autre chose. Alors, c'est dans un milieu où on éduque. Et on ne peut pas éduquer trop de personnes à la fois. On n'éduque pas de la même manière des contemplatives pures et ceux qui sont dans le monde. Mais il y aura toujours la prudence. Je ne peux pas éduquer quelqu'un sans l'éveiller à la prudence. Et c'est très très important ça. Quand il s'agit des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, c'est l'Esprit Saint qui nous éduque. Et l'Esprit Saint se sert d'instruments. Celui ou celle qui est là pour nous aider à vivre notre vie de foi. C'est un parrainage du Saint-Esprit. Le parrainage du Saint-Esprit, c'est de choisir ceux et celles qui sont là comme des témoins. Quand il s'agit des vertus morales, c'est à ce niveau-là où il y a vraiment éducation. On n'éduque pas au point de vue de la foi, au sens strict. On doit se mettre directement sous la mouvance de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est le directeur et le rector. C'est l'Esprit Saint qui dirige le croyant. Le croyant comme tel est dirigé par l'Esprit Saint. Il ne se dirige pas lui-même. Tandis que l'homme intelligent et qui essaie d'acquérir les vertus doit se diriger lui-même. Et alors le passage, vous voyez, de la foi à la prudence est quelque chose de très important à voir. La prudence du croyant chrétien, n'est pas la même que la prudence de l'homme tout court. C'est sûr. Alors ici, nous nous plaçons dans la connaissance philosophique que nous devons avoir de cette vertu qu'est la prudence. Et nous voyons la nécessité de poser la prudence pour pouvoir aimer, pour le choix de l'ami. Le choix de l'ami ne peut exister pleinement que si on a acquis une certaine prudence. Si on n'a aucune prudence, on ne peut pas choisir un ami. Ça durera un jour. Et puis le lendemain, on dira, c'est pas ça. La prudence, c'est le lien qui existe, le rapport qui doit exister entre notre finalité. Je recherche la vérité, par exemple. Hein. Je prends ça. C'est une finalité humaine, rechercher la vérité. Quels sont les moyens pour moi de rechercher la vérité? Il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. Je peux rechercher la vérité en lisant toute l'histoire de la philosophie. Je suis en compagnie de gens qui recherchent la vérité. C'est Topfer qui dit « il y a des maîtres morts ». Je peux rechercher la vérité chez Hésiode, il dit qu'il recherche la vérité. Je peux rechercher la vérité chez Platon, il recherche la vérité. Je peux rechercher la vérité chez Heidegger, il recherche la vérité. Vous voyez, je me mets à l'école des philosophes. Je peux rechercher la vérité en essayant de suivre des cours à la Sorbonne, dans n'importe quelle université. Puis je m'aperçois qu'on recherche avant tout, c'est avant tout l'histoire des philosophes. Et quand il s'agit de savoir exactement lequel est dans la vérité, lequel est plus proche de la vérité qu'un autre, très difficile, personne ne répond. On dit, je vous enseigne l'hégélianisme. Est-ce que c'est vrai? Mais découvrez vous-même. Je vous enseigne Kant. Est-ce que c'est vrai? Comme éthique. Voyez. Je vous montre comment le problème s'est posé pour Kant et la solution que Kant a dit. C'est très intéressant pour celui qui a du temps. Parce que toute sa vie, on pourrait chercher l'histoire de la philosophie européenne, occidentale. et la philosophie orientale. S'il faut du temps, je peux me mettre à l'école de quelqu'un qui essaie plus immédiatement de rechercher la vérité. C'est ce que nous essayons ici. Faire plus immédiatement la philosophie, on ne néglige pas du tout une topique historique. Elle fait partie de notre formation. Mais nous savons très bien que je ne peux pas adopter la vérité d'un autre. Non. En philosophie, l'autorité, c'est la dernière des raisons. C'est pour ça qu'on doit interroger. Parce que quand vous vous opposez à quelqu'un, qui vous enseigne, vous vous opposez en fonction d'une référence. Ça, j'en suis sûr. J'ai entendu ce cours d'un autre. J'ai lu cela chez un autre, dans un livre. C'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais attention. La vérité, c'est pas être d'accord avec l'opinion que vous avez. Et cette opinion, vous l'avez de qui? De quelqu'un qui vous a enseigné avant? Ou d'un livre que vous avez lu? Vous restez dans l'opinion. Alors il s'agit de ressortir cette opinion, de la mettre en pleine lumière, et puis confronter ce qu'on vous dit maintenant. Et voir où est la vérité. Hein? Là, vous êtes loyal. Si vous opposez ce que vous avez reçu avec l'enseignement que vous avez ici, en disant, c'est pas d'accord, mais au nom de quoi? Au nom de votre opinion? Ben, c'est votre opinion. Et si vous mettez votre opinion comme mesure de la recherche de la vérité, vous êtes autodidacte. Et vous restez dans votre opinion. Et vous ne progresserez pas. Vous êtes à la taille de quelqu'un qui a 23 ans, 25 ans, et vous resterez toujours à cette taille-là. C'est la réalité qui nous conduit, ou c'est la révélation qui nous conduit, la foi ou l'expérience. Ça exige de nous une très grande pauvreté, c'est-à-dire toujours se considérer comme des novices du Saint-Esprit. Toute sa vie. Si vous ne vous considérez pas comme novice du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vous éclairera plus. Parce qu'il dira, pas besoin, celui-là, il sait tout. Il sait tout. Je n'ai pas besoin de l'éduquer, je le laisse tranquille. Et le Saint-Esprit fait ça, vous savez. Il ne vous avertit pas, ce qui est ennuyeux. Si vous avertissez, feu rouge, feu noir, ça irait très bien. Il ne vous avertit pas. Et il fait ça. Si vous restez dans votre opinion, l'Esprit Saint vous laissera dans votre opinion. Et vous vous casserez la tête au bout d'un certain temps. C'est là la difficulté, hein, c'est de rester un novice du Saint-Esprit. Et le philosophe est novice de l'expérience qu'il a. Et c'est toujours cette expérience qu'il a, expérience affective, expérience de recherche, qui le conduit. On doit tout le temps venir à ça. Parce que c'est la réalité qui nous conduit. Alors, la prudence, elle est nécessaire pour que l'amour d'amitié puisse exister. Pourquoi? Parce que dans l'amour d'amitié, il y a un choix. Je te choisis. Nous l'avions vu, ça, hein, l'année dernière, en analysant ce qu'est l'amour d'amitié comme fondement de l'éthique humaine dans ce qu'elle a de premier, dans ce qu'elle a d'immédiate. Le choix présuppose une connaissance, et une connaissance qui lie un moyen et une fin. Et ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'amour d'amitié, c'est que l'ami qu'on choisit est à la fois fin et moyen, puisque je le choisis. Alors c'est là où le problème philosophique de la prudence et immédiate. La prudence consiste à lier les moyens avec la fin. Tout le temps. Pourquoi ? Parce que la fin, je suis lié à la fin dans une union affective. Et cette union affective doit prendre possession de toute ma vie et devenir une union réelle, effective. Vous voyez, c'est très étonnant et ça m'a beaucoup frappé dans l'encyclique. C'est que toutes les erreurs que le Saint-Père dénonce, c'est autour de ce problème de l'union affective et l'union affective. L'acte moral unit les deux en les distinguant. Les objections consistent à séparer l'union affective de l'union affective. Alors ça, c'est la suprême imprudence. L'union affective n'est pas l'union effective. C'est mon conditionnement humain, ça. Mais je ne peux pas séparer, je peux distinguer, puisque je dois aller de l'un à l'autre. Et constamment, je vais de l'un à l'autre. Le choix amical implique l'aspect finalité et l'aspect d'efficacité. Il y a un vrai